Je voudrais d'abord remercier Hélène de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Je suis, tout en ayant un fils mathématicien tout aussi incompétent dans l'histoire des mathématiques qu'elle, je pense que d'autres se chargeront un petit peu donc d'éclairer les aspects plutôt mathématiques de l'entreprise de Cantor. Ce que je voulais proposer comme petite contribution de ma part ce soir, c'est donc de regarder le cas de Cantor avec les yeux donc d'un historien des relations socio-culturelles entre la France et l'Allemagne, avec d'abord quelques considérations sur le corpus même de cette correspondance, qui est vraiment étonnant, que je trouve étonnant, et puis mon point d'entrée, ça sera de voir plutôt en quelle mesure Cantor, pour moi, d'après ce que j'en ai lu et ce que j'en ai vu, est un cas plutôt atypique dans les relations scientifiques et intellectuelles franco-allemandes de la période considérée. Alors, ce qui m'a frappé, donc en lisant ces lettres, c'est que, tout en ayant en face de soi un mathématicien, un grand mathématicien, on voit qu'il brasse tout un ensemble de l'histoire intellectuelle de la deuxième moitié du XIXe siècle, donc avec le positivisme, l'idéalisme, le matérialisme, des questions religieuses, la relation entre foi et science, des ouvertures politiques. Donc, en fait, tout en ayant affaire à un spécialiste, le plus pur spécialiste, spécialiste de la discipline qui est censée avoir aucun rapport avec la réalité empirique, donc on est en face de quelqu'un qui se situe vraiment dans une histoire intellectuelle longue et profonde. Et c'est d'autant plus étonnant que nous sommes en face que d'un tout petit fragment de cette correspondance immense, puisque l'essentiel donc est tiré des trois livres de Brouillan qui sont conservés parmi les dizaines qui ont dû exister. Donc, on a une toute petite fenêtre, finalement, sur une activité de correspondance énorme qui, sans doute, complète d'autres correspondances de Cantor qui sont connues, comme celle avec Dedekind. Mais en tout état de cause, on est en face de quelqu'un qui, tout en étant donc scientifique pur, a une sorte de culture épistolaire absolument extraordinaire, qui, manifestement, l'activité d'écrire des lettres, d'entretenir des correspondances, est quelque chose de tout à fait vital dans l'organisation de sa vie. Et du coup, on voit effectivement, à travers cette correspondance, non seulement la circulation de certaines idées, mais aussi la manière dont il les formule, parce que dans les brouillons, il y a quelquefois des corrections. Et puis, donc, la manière aussi dont ces lettres se réinscrivent dans d'autres contextes, dans le contexte des destinataires ou dans le contexte des discussions scientifiques l'époque. D'un point de vue matériel, pour ce que j'en ai vu justement des petits facsimilés, ça m'a rappelé aussi un autre corpus de Göttingen qui sont les Zudelbücher de Lichtenberg, donc où il y a effectivement aussi une sorte de pullulement d'idées de toutes sortes. Bon, ce sont pas des correspondances, mais aller voir matériellement, donc ça rappelle un peu du Lichtenberg. Voilà un peu pour l'impression générale que j'en ai tirée.